Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
On a longtemps cru en Europe et dans le monde occidental que le récit du déluge apparaissait pour la première fois dans la Bible, une Bible que l'on considérait comme une source historique primaire. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que des fragments de tablettes racontant les exploits d'un certain Gilgamesh soient traduites et qu'un déluge d'avant le déluge émerge de ces textes millénaires venus de Mésopotamie. À quoi ressemble ce déluge écrit en langue akkadienne et sumérienne? Quels sont les éléments récurrents de ce mythe fondateur que l'on retrouve dans ces textes cunéiformes? On se demande aujourd'hui comment, partant d'un travail archéologique, linguistique et philologique, on a pu remonter à la source de l'un des mythes les plus importants de l'histoire de l'humanité. Bonjour Cécile Michel.
Bonjour.
Vous êtes assyriologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire archéologie et sciences de l'Antiquité. Merci beaucoup à vous de venir aujourd'hui nous raconter comment le déluge a émergé ou submergé ces premiers textes écrits par l'humanité en langue akkadienne et sumérienne, je le disais. Une fois n'est pas coutume, on ne va donc pas creuser aujourd'hui dans la terre, mais on va creuser dans les textes et on va croiser des figures mythologiques comme Gilgamesh ou Atrahasis. Alors on va commencer cette émission par un petit mot pour commencer. On a appris la disparition de l'archéologue Jean-Paul Guillaumet. Ce mercredi 4 juin, Jean-Paul Guillaumet a été l'un des principaux artisans des fouilles conduites sur le site de Bibracte. Archéologue passionné, inventeur de dispositifs de fouilles inédits et grand passeur auprès de plusieurs générations d'archéologues venus fouiller sur le Mont Beuvray. Il s'est éteint à 78 ans. On adresse nos pensées à sa famille, à ses proches et à toutes les équipes qui ont pu travailler à ses côtés à Bibracte, un site devenu emblématique en France en grande partie grâce à ses efforts. On revient maintenant dans l'entretien archéologique à notre sujet du jour et au mythe du déluge en Mésopotamie. Avant de nous plonger dans ces textes fondateurs qui émergent dès les tout premiers âges de l'écriture, j'aimerais vous faire entendre la voix de l'anthropologue, préhistorien et mythologue Jean-Loïc Lequelec, qui répondait le 29 décembre 2021 à Maïlys Bessery sur France Culture dans l'émission La Grande Table. Il décrivait alors la grande famille des déluges et la fonction de ces mythes.
Qu'est-ce que c'est qu'une histoire du déluge, au fond ? Nous, on pense pluie. Immédiatement. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit, parce que la pluie diluvienne, c'est aussi passé dans le vocabulaire. Or, c'est pas exactement ça, une histoire de déluge. Une histoire de déluge, c'est l'histoire d'une création, une première création, par une divinité, peu importe, un ou plusieurs dieux, c'est pas très important, mais une première création qui ne se comporte pas comme vraiment attendue, ou qui a un comportement un peu pénible, fait trop de bruit, se révolte, se prend elle-même pour des dieux quand il s'agit des premiers humains, se multiplie beaucoup trop, ce qui fait que ça va être trop lourd et la Terre va s'effondrer. Ça va pas comme prévu. Et donc, ça va tellement pas bien, en fait, que la divinité créatrice décide de recommencer.
Donc en réalité, c'est un raz-de-marée, c'est table rase.
C'est pas réparable, voilà. Donc la décision, c'est de, on efface tout, on recommence. Et donc on va éradiquer les êtres de cette première création, parce qu'ils sont vraiment trop imparfaits. Donc pour éradiquer toute une création, il n'y a pas 36 000 solutions. Et effectivement, le déluge, c'est une très bonne solution. Et il y a plusieurs types de déluges, parce que du coup, on peut utiliser un déluge de feu. C'est ce que les mythologues appellent l'ekpyrosis, c'est-à-dire l'embrasement du monde. On met le feu partout, et une fois que tout s'est éteint, on va recommencer à zéro.
On peut faire déborder la mer.
Ou bien par l'eau. Alors, soit par la pluie, soit par une espèce de tsunami, soit par un débordement d'eau terrestre, il y a tout un tas de processus. Mais par l'eau également, on va éliminer tout le monde, et ensuite, parfois en sauvant les rares qui étaient sauvables, considérés comme à peu près acceptables. Et à partir de là, une nouvelle humanité va être créée. C'est ce qu'on appelle un mythe de double création.
Cécile Michel, le déluge, ça a toujours été le meilleur moyen, finalement, pour se débarrasser des humains, quelles que soient les mythologies.
Oui, c'est ce qu'on appelle laver la terre de la surface de toute sa vie, donc de tous les êtres vivants, par l'eau.
Qu'est-ce que vous retenez de ce propos de Jean-Loïc Lequelec, qui lui s'intéresse beaucoup justement à l'origine des mythes et puis à leur circulation et aux points communs qui unissent tous ces mythes fondateurs?
Oui, ben c'est ça en fait. C'est une création qui n'a pas bien fonctionné et qui et dont on ne peut pas réparer grand-chose en fait. Et donc on est obligé d'effacer cette première création pour recommencer à zéro.
Quand on parle de déluge, on parle d'un mythe anthropogonique, donc on parle de la création des humains, là où on va parler d'un mythe cosmogonique quand on parle de création du monde. Je le disais en introduction de cette émission, Cécile Michel, en Europe et dans les pays occidentaux, le déluge de la Bible a longtemps tenu le haut du pavé. Qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle pour qu'on se dise « Ah mince, en fait, il y a peut-être un déluge antédiluvien ».
Alors, le déluge dans la Bible et les livres du Pentateuque, les cinq livres fondateurs de la Bible ont été inspirés directement par Dieu. Donc, on pensait qu'effectivement, c'était un écrit divin, directement inspiré par Dieu. Et la découverte de la première tablette cunéiforme qui racontait une histoire qui était tellement proche de celle de la Bible a un peu effondré tous les croyants en découvrant que bah, peut-être il y avait effectivement un emprunt et que ce n'était pas un livre purement divin. Alors ce qui s'est passé, c'est que le jeune George Smith, en 1872, était en train de travailler, de recoller en fait ensemble les tablettes qui avaient été rapportées lors de ses fouilles à Ninive par Henry Austin Layard dans les années précédentes. Henry Austin Layard avait eu beaucoup de chance parce qu'à Ninive, il était tombé sur la bibliothèque royale d'Assurbanipal. Assurbanipal est un roi qui a régné au 7e siècle avant Jésus-Christ et qui se targue d'être savant, de savoir lire et écrire lui-même et qui donne des ordres à tous les hauts officiels de son royaume pour rassembler tous les témoignages écrits de la science de son temps. Et donc, il ramasse une collection magnifique de textes mythologiques, scientifiques, savants, etc., qu'il conserve dans son palais à Ninive. Donc, Layard tombe sur cette magnifique bibliothèque et ramène une 30 000 tablettes cunéiformes. Si on recolle tous les morceaux, ça doit faire à peu près 20 000 textes. C'est absolument incroyable. Et donc, les réserves du British Museum en ont partout et il faut essayer de recoller les morceaux, de commencer à lire et comprendre ce qu'il y a dedans. Et donc, en faisant du recollement de tablettes, le jeune George Smith tombe sur une tablette où on parle d'un bateau qui arrive en direction d'une montagne, d'une colombe qu'on lâche, et il se dit mais c'est quelque chose qui ressemble si fort au déluge. Donc le 3 décembre 1872, il fait une communication devant la Société des biblistes de Londres, qui était à l'époque dirigée par l'officier Rawlinson, qui avait participé au déchiffrement des cunéiformes. Donc c'était une session importante où il explique que ben, en fait, la Bible s'est inspirée du mythe du déluge qui existait déjà chez les Mésopotamiens.
Alors on parle des sites de Ninive, de Nimrod. Quand étaient-ils peuplés? Quand étaient finalement écrits ces textes en cunéiforme, si on doit bien situer cette période par rapport à l'écriture de la Bible?
Alors cette tablette qu'étudiait George Smith, en fait, c'est une tablette qui appartient à l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh est un texte qui a été composé à partir de plusieurs épisodes. Et ces épisodes sont connus en version écrite à partir du début du deuxième millénaire. On ne sait pas, bien sûr, évidemment, ce qu'il en était de la tradition orale. Cette épopée de Gilgamesh a été canonisée, c'est-à-dire a été mise en forme par un scribe qui s'appelait Sinlekeunini au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et on pense que cette 11e tablette de l'épopée a été ajoutée à ce moment-là à l'ensemble de l'œuvre, donc au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, pour ce qui est de cette tablette, après, les scribes, dans le cadre de leur apprentissage et dans le cadre de leurs travaux savants, ont recopié à l'infini. Et donc, dans la bibliothèque d'Assurbanipal, il y avait plusieurs exemplaires de cette 11e tablette de Gilgamesh.
Cette 11e tablette dont on entendra un extrait tout à l'heure dans sa version originale. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir entendre de l'acadien. Mais j'aimerais peut-être, avant qu'on parle de la 11e tablette qui contient cet épisode du déluge que vous nous rappeliez, et que vous rappeliez aussi aux personnes qui nous écoutent, ce que contient ce mythe globalement de Gilgamesh. Que raconte cette histoire? C'est un peu les 12 travaux d'Hercule façon Mésopotamie, c'est ça?
C'est à peu près ça. Donc, à l'origine, Gilgamesh est un roi de la ville d'Uruk. Il règne au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et il est un roi tyrannique. Il brutalise sa population. Il est très peu apprécié du peuple. Et puis, les dieux pensent que il a un comportement qui est à la limite de l'admissible. Et on lui envoie pour essayer de canaliser sa force et son énergie, parce que c'est bien sûr quelqu'un de très grand, très, très musclé, etc. Pour canaliser sa force et son énergie, les dieux décident de lui envoyer quelqu'un qui serait à peu près son égal en force, etc., qui est un être demi-sauvage, qui va être amené à la civilisation par une prostituée, donc c'est tout un processus, et un combat commence entre Gilgamesh et cet être qui s'appelle Enkidu. Et ce combat va se finir sans véritable vainqueur et ils vont devenir les meilleurs amis du monde et les frères. Et puis ils vont mener effectivement des exploits remarquables, dignes des 12 travaux d'Hercule, effectivement. Et puis, entre-temps, la déesse Ishtar a essayé, qui est très amoureuse de Gilgamesh, a essayé de le faire tomber dans ses
bras.
Très amoureux et dans son lit. Et Gilgamesh l'a repoussé parce qu'il connaît les actes passés d'Ishtar et la façon dont elle s'est comportée avec le dieu de Mousi, par exemple. Et donc, il la repousse et, furieuse, elle décide que Enkidu va mourir.
Il a tué son meilleur ami.
Voilà. Et à ce moment-là, Gilgamesh découvre qu'il est mortel. Et il sait qu'il existe un homme sur Terre qui a acquis l'immortalité. Et donc, il va parcourir un très long trajet parce que cet homme habite aux confins des mondes connus. Et donc, il va aller à la rencontre de cet homme pour essayer de comprendre comment il a acquis l'immortalité et comment, à son tour, il va pouvoir devenir immortel.
Eh bien, c'est la parfaite introduction à cette lecture qu'on va écouter de l'extrait de l'épopée de Gilgamesh, une lecture en version originale acadienne lue par Karl Ecker. Et ensuite, je vous lirai la traduction que vous en avez faite, Cécile Michel.
Cheche uri u sebe umushati ilaksharu abubu mehu isapanmata. Sebu umu inakashadi itarak mehu abubu kapla. Shaim taksu kima khayalti inuhtamtu. Ushare imkulu abuba ikla. Apalsama uma shakinkulu. Ukula tenesheti itura anatiti. Kima uri mitwarat ushalu. Apte napashama setu imtakut elitu apia. Uktamisma Atashap Abaki.
Six jours et sept nuits durant, bourrasque, pluie battante, tempête et déluge nivellèrent le pays. Lorsque le septième jour arriva, ce déluge se calma, l'orage se calma, la mer qui avait combattu comme une parturiente se calma. La tempête fit silence, le déluge s'arrêta. Je regardais alentour. Le silence s'était installé. Et tous les gens étaient redevenus argile. La plaine était plate comme un toit. J'ouvris une fenêtre et la lumière me tomba sur le visage. Je tombai à genoux, immobile, et pleurais. Cécile Michel, on entendait à l'instant donc un extrait de l'épopée de Gilgamesh. Qui dit « je » dans ce passage ?
Oui, parce que donc Gilgamesh arrive et rencontre Utnapishtim, dont le nom signifie « le lointain a trouvé la vie », donc ça signifie bien ce qu'il est devenu, un immortel. Et c'est Utnapishtim va lui raconter son aventure. Donc tout le passage racontant le déluge est effectivement à la première personne. Mais ce passage arrive un petit peu comme un cheveu sous la soupe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi le déluge est arrivé dans l'épopée de Gilgamesh. C'est vraiment les dieux se fâchent et envoient le déluge, mais il n'y a pas de prélude à cette histoire. Et effectivement, il pleut 7 jours, 7 nuits. Alors dans la Bible, c'est 40 jours. Et à l'arrivée, quand Gilgamesh pense que tout le temps est devenu plus calme, donc effectivement, il tombe à genoux, il pleure, et il va lâcher successivement une colombe, une hirondelle et un corbeau pour voir s'il y a moyen de se poser quelque part. Et les deux premiers reviennent, le troisième ne revient pas, ce qui signifie qu'il a trouvé un bout de terre. Et donc, Gilgamesh accoste sur une montagne, donc ça a donné encore lieu à beaucoup de mythes ultérieurs. Et la première chose qu'il fait, c'est un grand sacrifice. Il fait un grand feu, il sacrifie des animaux pour remercier les dieux de l'avoir laissé en vie. Et là, le poème est magnifique et on retrouve cette même version dans d'autres textes. Les dieux étaient affamés parce que pendant 40 jours et 40 nuits, il n'y a pas eu de sacrifice. Et donc, ils arrivent à tirer comme des mouches autour du feu.
C'est intéressant, cette relation entre les dieux et les humains, où les dieux ont toujours besoin des humains, et inversement, les humains ont besoin des dieux, et parfois en souffrent beaucoup. Ce qui est incroyable dans ce que vous me dites, Cécile Michel, c'est quand même cette parenté évidente, et on va venir bien sûr à d'autres récits de déluge dans ce monde mésopotamien, mais cette parenté évidente entre le déluge de Gilgamesh et le déluge de l'Arche de Noé, avec ses oiseaux, cet envoi d'oiseaux, tout se recoupe finalement.
Alors, il y a une grosse différence, parce que dans la Bible, c'est Dieu qui est créateur, qui a créé les hommes et qui envoie le déluge. Alors qu'en Mésopotamie, on a des panthéons très fournis avec plein de dieux. Et donc, celui qui envoie le déluge, c'est Enlil Or, les dieux créateurs, ce sont les déesses mères et le dieu Enki en sumérien ou Ea en acadien, qui est à l'origine de la création de l'homme.
Alors Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, Cécile Michel, n'est peut-être pas le texte le plus ancien qui parle de déluge. Il y a un autre mythe peut-être qu'on pourrait évoquer dans ce monde mésopotamien, celui d'Atrahasis. Comment a-t-on à nouveau découvert la trace de ce mythe? Est-ce que c'est à nouveau George Smith qui, dans son délire de fouille et d'étude de ses tablettes en Grande-Bretagne, s'est dit « Ah tiens, il y a encore un autre mythe là qui apparaît ».
Alors en fait, on est beaucoup plus tard dans le temps, au milieu du XXe siècle, et les collègues assyriologues travaillaient sur les archives qui ont été découvertes dans la ville de Sippar, et il s'avère qu'il y avait entre 10 et 15, peut-être 20 exemplaires d'un mythe qu'on ne connaissait pas par ailleurs, et qui était plus ancien que cette 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh, puisque ces textes remontent à l'époque paléo-babylonienne, c'est-à-dire les premiers siècles du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et on a plusieurs copies de ce texte qui ont été rédigées sous le roi Amitsadouka de Babylone, qui régnait au 17e siècle avant Jésus-Christ. Donc, et en fait, il s'est avéré à la lecture du texte que c'était le texte qui avait inspiré la 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh.
Alors, on a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, petit aparté, petit détour par la linguistique, mais on a parlé de la langue acadienne. Ces textes, on les a aussi trouvés en langue sumérienne. La langue sumérienne précède la langue acadienne. Est-ce que ça veut dire que, voilà, ils ont été écrits avant, ou bien est-ce que, un peu de la même façon qu'on a le latin, voilà, qui a été écrit pendant longtemps, même si on ne parlait plus de façon courante, le sumérien, c'est un peu le latin de la Mésopotamie, c'est ça?
Alors c'est tout à fait ça, parce que les Sumériens, dont on pense qu'ils sont les inventeurs de l'écriture, vers 3400 avant Jésus-Christ, la civilisation sumérienne s'éteint et le sumérien n'est plus parlé à partir de 2000 avant Jésus-Christ. Mais comme ce sont les créateurs de l'écriture cunéiforme, eh bien les petits scribes vont devoir apprendre en priorité à l'école à écrire, à lire et à écrire le sumérien pendant plus de 2000 ans.
On parlait de ce mythe d'Atrahasis qui précède le mythe de Gilgamesh. Que raconte à nouveau ce mythe pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec les contes et légendes de Mésopotamie?
Alors, ce mythe est aussi écrit en acadien, puisqu'on vient parler de sumérien pour pas mélanger un peu les choses. Et ce mythe est absolument fantastique et très construit. Et là, l'histoire du déluge s'inscrit dans une logique, dans une histoire. Alors, ce mythe est magnifique. Parce qu'à l'origine, on a deux classes de dieux. On a les Anunnaki, qui sont les grands dieux, et il y a une classe inférieure de dieux, les Igigi, qui travaillent pour nourrir les Anunnaki. Donc ce sont des dieux corvéables à merci. Et un jour, ces dieux se révoltent. On décide qu'ils en ont assez. Pourquoi est-ce qu'ils ont une vie très différente des grands dieux? Et ils font la première grève dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'ils brûlent leurs outils, et ils décident que ça ne va pas, ils arrêtent de travailler, ils font la grève. Et les grands dieux sont très embêtés, et bon, on s'explique. Et là, une fois de plus, c'est le dieu donc Enki en sumérien et Ea en acadien qui décide de créer un substitut au dieu inférieur, et comme ça, les dieux inférieurs n'auront plus le droit, plus besoin de travailler. Donc, avec la déesse mère, ils vont former 7 pâtons de clé d'argile d'un côté, 7 pâtons d'argile de l'autre, puis on va quand même sacrifier l'initiateur de la révolte, qui est le dieu Wé. Donc, on va arroser ces pâtons de clé du sang de Wé, et ce sang de Wé va donner une petite forme, on va dire, de vie éternelle au dieu, puisque ça va être l'esprit, les témous des humains. Donc l'esprit des humains est quelque chose qui est éternel, mais le corps, lui, il meurt. Et donc, avec la création de ces hommes et de ces femmes qui vont très très vite se multiplier, eh bien, on a une force de travail pour nourrir les dieux. C'est pour ça qu'il y a les sacrifices, et qu'il y a les dons au temple, etc. Le problème, c'est que cette humanité croît très 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 vite. Et Enlil, le grand dieu, commence à être très très ennuyé par le brouhaha qu'il y a sur la terre, à la surface de la terre, à cause des humains, et va envoyer plusieurs fléaux. Alors on retrouve un peu ces fléaux dans les 7 plaies d'Égypte, bien sûr. Il y a d'abord une épidémie, on pense que c'est la peste. Après, on va essayer de faire une sécheresse pour les empêcher d'avoir des cultures, etc. Et puis, l'ultime solution, bien sûr, c'est le déluge.
Alors ce déluge, il va à nouveau épargner quelques-uns de ces humains. Un humain en particulier, comment ce Atrahasis survit-il?
Alors, Atrahasi, c'est le très sage, ou le super sage, comme l'a appelé Jean Bottero, le grand assyriologue. Et à chaque fois, en fait, le héros, le survivant du déluge, c'est quelqu'un de très pieux. C'est quelqu'un de haut placé, parfois un roi, mais c'est surtout quelqu'un de très pieux. Et donc, il est épargné parce que c'est un bon, c'est un juste, c'est un peu l'histoire de la Bible avec Noé. Et donc, le dieu est Enki. Alors là, on a le nom sumérien du dieu dans ce texte, bien que ce soit un texte écrit en acadien, qui est le dieu des eaux souterraines et qui est un dieu très sage, qui est à l'origine de la création de l'homme. Il se dit qu'on ne peut pas éradiquer les hommes. Et donc, il choisit Atrahasis pour qu'il survive. Et comme il a promis au dieu de ne pas révéler le secret des dieux et d'annoncer le déluge, il va d'abord apparaître en songe, puis derrière une cloison de roseaux, et expliquer à Atrahasis, bon maintenant, il va y avoir une grande catastrophe, il faut que tu construises un bateau, donc il explique le bateau. Alors, dans l'épopée de Gilgamesh, dans la 11e tablette, on a les dimensions du bateau, on a beaucoup débattu, est-ce que c'est un cube, est-ce que sa largeur égale sa longueur, ou est-ce que c'est un bateau rond, hein, comme ceux qui naviguaient sur l'Euphrate il y a plus d'un siècle. Et puis, Atrahasis s'exécute, construit son bateau en 7 jours, avec l'aide de toute la population, et puis fait remonter dans son bateau sa famille, ses artisans, plein d'animaux. Donc il y a pas mal de gens quand même sur le bateau. Et il est effondré, parce que comme c'est quelqu'un de juste, il est effondré de voir que la population va mourir. Et il dit au dieu, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et le dieu lui souffle la solution. Il faut leur expliquer que ton dieu, donc moi, Enki, s'est disputé avec Enlil et que donc tu dois fuir parce que sinon ça va pas être possible et que toute cette histoire va retomber sur le peuple. Et à la place, Enlil inondera la population de bonnes choses en abondance, etc. Donc il leur sert exactement l'excuse que lui a inspiré ce dieu. Et puis, pareil. Il va s'enfermer dans son bateau avec tout ce qu'il a fait monter dedans.
Et donc après, voilà, comment se sort-il de ce déluge? Et puis, quelle réconciliation avec les dieux s'opère?
Alors, de même, puisque Gilgamesh a copié sur Atrahasis, enfin la 11e tablette de Sinlekeonini a copié sur l'épopée d'Atrahasis, donc on a le passage où il envoie des oiseaux est cassé. On n'a pas le passage complet, mais donc il va accoster et la première chose qu'il fait, effectivement, c'est un grand sacrifice pour les dieux, pour les remercier. Et pareil, les dieux affamés, attirés comme des mouches, arrive autour de ce sacrifice.
Alors Cécile Michel, vous avez apporté, je crois, avec vous un extrait de ce mythe d'Atrahasis. Est-ce que vous accepteriez de nous en faire une petite lecture?
Oui. Les dieux sentirent l'odeur, ils étaient rassemblés comme des mouches au-dessus de l'offrande. Après qu'ils eurent mangé l'offrande, Nintu se leva et se plaignit de tous. Où Enlil, où Anu est-il allé, l'auteur de cette décision? Enlil s'est approché de l'offrande d'encens, celui qui n'a pas réfléchi et qui a causé le déluge. Et rassembler les gens dans une catastrophe. Votre ordre a apporté une destruction totale. Et leurs faces claires sont devenues sombres. Alors elle s'approcha des grandes mouches qu'Anu avait faites et dit « Leur désespoir est mien. Que ce soit mon destin, ces mouches de lapis-lazuli, qu'elles soient la parure de mon cou, que je me souvienne de ces jours et ne jamais les oublier. »
Pourquoi, Cécile Michel, vous avez pris ce passage-là? Qu'est-ce qui vous parle dans cet extrait-là?
Parce qu'en fait, il y a un grand débat à l'issue du déluge, où effectivement, qui a éradiqué à la surface de la Terre la plupart des êtres vivants. Il y a un grand débat entre les dieux. Enfin, surtout, la plupart des dieux regrettent amèrement cet acte décidé finalement et organisé par Enlil. Et il y a un très long passage où les dieux discutent et surtout se lamentent de la disparition de l'espèce humaine qu'ils avaient créée à l'origine.
On leur manquait un petit peu.
Et donc la déesse mère va se parer de ce collier de mouches en lapis-lazuli. Et on a retrouvé dans les perles, dans plusieurs sites, des petites mouches en lapis-lazuli qui devaient célébrer ce mythe.
C'est ça que je trouve très beau, c'est le lien justement entre la recherche archéologique, le fait que cette recherche archéologique fait qu'on découvre voilà, les tablettes cunéiformes, que par cette découverte archéologique, on comprenne qu'il y a des mythes qui préexistent, des mythes du déluge qui préexistent à celui de la Bible. Petit détour justement par ce moment où on comprend qu'il y a un déluge avant le déluge biblique, ça crée l'effet d'une détonation, j'imagine. Qu'est-ce que ça
Alors, ça fait une détonation complète, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, on pensait que le livre biblique était inspiré divin, Dieu, et on se découvre qu'en fait, il a des précurseurs. Et en 1904, il y a un Allemand qui s'appelle Franz Delitzsch et qui publie un ouvrage qui s'appelle Babel und Bibel, et où il explique qu'en fait, le déluge n'est pas le seul texte inspiré dans la Bible des Mésopotamiens, et qu'en fait, l'essentiel de la Bible serait... Il va carrément dans l'excès inverse, l'essentiel de la Bible viendrait en fait de la mythologie mésopotamienne.
Une mythologie qui irrigue tout ce Proche-Orient. Quand je parle d'irriguer, je pense aussi à ces deux grands fleuves, le Tigre, l'Euphrate. Alors, je me pose des questions parce qu'on essaie de comprendre l'origine des mythes. Alors, ça, on n'aura pas la réponse, bien sûr. Je vous la pose quand même, c'est une question très ouverte. Mais est-ce qu'on a des traces archéologiques de catastrophes météorologiques, climatiques, qui pourraient expliquer la naissance de ce mythe du déluge, le Tigre et l'Euphrate étant des fleuves particulièrement capricieux, fragiles et sujets à des crues en colère, on va dire.
Absolument, c'est tout à fait ça. Et alors, évidemment, après la découverte de cette tablette de Gilgamesh, dans la première moitié du XXe siècle, les archéologues ont cherché sur les sites qu'ils fouillaient des traces de ce déluge. Alors, on a cherché ces traces à Ur, à Kish, à Shurupak, où on a effectivement... Bon, alors ils ont fait d'énormes sondages, ça parfois a été un peu dévastateur, mais où effectivement ils ont trouvé des niveaux, parfois des niveaux très importants, de plusieurs mètres, complètement vierges de vestiges archéologiques, de juste de limon et de accumulés, etc. Ils se sont dit, mais ça y est, je tiens mon déluge. Le problème, c'est que c'est les datations de ces couches stériles de matériel ne coïncidaient pas entre les différents sites. C'est-à-dire qu'on en avait pour le début du troisième millénaire, puis on avait pour le milieu, puis on avait pour la fin, et donc on ne pouvait pas parler d'un déluge universel. Mais il est évident qu'en fait, la création de ce mythe vient de ces crues énorme de ces deux fleuves qui traversent toute la plaine mésopotamienne et qui, on le sait très régulièrement, débordaient de leurs lits et ont fait des ravages et ont pu effacer quelques villes.
Et l'archéologie des mythes, on entendait la voix de Jean-Loïc Lequelec, donc il y a des personnes qui se dédient entièrement à ça, à la compréhension de l'origine des mythes, c'est quelque chose de pas simple, puisque concomitamment, à plusieurs endroits de la planète, des cultures humaines très diversifiées vont avoir ces mêmes mythes, ces mêmes besoins de créer un déluge, alors que ce soit par le feu, comme on l'entendait tout à l'heure, ou bien par l'eau. Ça complique le travail quand même.
Oui, je crois que dans un pays nordique, il y a un déluge par la neige, par tempête de neige aussi. Chez les Grecs, j'ai un trou, le fils de Prométhée, dont je viens d'oublier le nom, et son épouse qui survivent au déluge, ils sont avertis par Zeus, et ils sèment des petits cailloux qui vont se retransformer en humains. Donc en fait, ils recréent l'humanité aussi sec.
En tout cas, merci beaucoup à vous, Cécile Michel, d'être venue nous raconter ces histoires de déluges dans le monde mésopotamien. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, à Étienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Olivier Arnay, aujourd'hui à la technique. Et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.